sûr nous comprendre. Et je le dis, vous savez, des pas, je dis chez moi, écoutez, être chrétien médiocre, avoir une vie partagée, il vaut mieux quitter l'église. Il vaut mieux quitter. Vous ne serez pas heureux sur la terre, vous ne serez pas heureux dans le ciel, vous aurez tout raté. Vous aurez raté la vie sur la terre, vous aurez raté la vie dans le ciel. Il faut choisir. Il faut choisir courageusement. On n'est pas heureux en tant que chrétien parce qu'on n'a pas renoncé à tout. On n'est pas heureux en tant que non-chrétien parce que finalement, on se culpabilise quand même. Après tout, si je ne vais pas à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Et on n'est pas heureux dans le ciel parce qu'on a raté toute chose. Mes amis, ce matin, je voudrais rappeler à chacun et à chacune que Dieu est vivant. Que c'est quelque chose de merveilleux de servir Dieu. C'est quelque chose de merveilleux de sentir la puissance de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que Dieu est en nous, que son esprit est en nous et qu'il nous conduit. Mais il faut faire le choix. C'est pas le bon choix. C'est le choix. Celui qui va vous entraîner dans une meilleure résurrection. Paul renonce à tout. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Vous savez, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 38, il dira encore, c'est toujours Jésus qui parle, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Quiconque aura honte de lui. Vous savez, on utilise souvent ce verset dans l'évangélisation pour parler aux inconvertis. Mais il s'agit là, ici aussi, de chrétiens. De chrétiens qui ont peur d'afficher la couleur devant leurs collègues de travail. Les chrétiens qui ont peur d'afficher la couleur devant leur famille, devant leurs enfants, devant leurs relations, devant leurs amis, parce que ça va leur coûter quelque chose, et ça coûte quelque chose d'afficher la couleur chrétienne. J'ai perdu tous mes amis quand je me suis converti. Alors, est-ce que tu as beaucoup d'amis? Mais parce que tu as accepté d'avoir honte et de te taire? Un jour, un chrétien il m'a dit, mais moi, je n'ai de problème avec personne. J'ai dit, si tu as de problème avec personne, je suis convaincu que ton témoignage n'est pas efficace. Parce que si tu veux réellement marcher avec Christ, tu auras des ennemis, et des ennemis dans ta propre maison. Ce matin, je vous pose la question. Vous voulez une meilleure résurrection? Alors, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez honte de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez honte de dire non là où tout le monde dit oui? Est-ce que vous avez honte de dire oui là où tout le monde dit non? Mais ce que Dieu cherche, ce n'est pas des moutons, c'est des hommes et des femmes qui osent payer le prix de leur engagement. Oh, nous avons l'église de Jésus. Le monde, aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui, a désespérément besoin de voir des chrétiens authentiques qui ont le courage de marcher à contre-courant. Faire comme tout le monde, c'est facile. Il n'y a qu'à se laisser aller. Mais le Seigneur nous a donné son esprit pour que nous soyons puissants et forts et aller à contre-courant et gagner les âmes qui se perdent. Mes amis, ce matin, j'aimerais tellement que Dieu puisse imprimer cette vision dans votre cœur. Le témoignage que nous avons à rendre va conditionner la résurrection que nous aurons plus tard. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, il y a également ce texte assez intéressant. Je vais vous le lire, Luc 14, verset 12. Il faut quand même que je le lise parce qu'il est important. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni des riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux car ils ne peuvent te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés de la mort à la vie. » Mes amis, il y a différentes récompenses là. Il y a différentes récompenses. Si vous recevez votre récompense sur la terre, dit Jésus, vous ne la recevrez plus dans le ciel. Vous savez, un jour, ce serviteur de Dieu, il était là, il avait travaillé, fait toutes sortes de choses, et puis, il était là, il dit, « Seigneur, mais autour de moi, les uns et les autres, tu les bénis, ils sont honorés, ils reçoivent la récompense du travail qu'ils font. Ben moi, je peine, là, je suis là, et puis c'est toujours les autres qui sont honorés, moi, c'est comme oublié, etc. » Il en avait gros sur la patate. Vous savez, ça arrive parfois, excusez-moi du terme. Parfois, on se rend compte que ceux qui font le mal, ils prospèrent comme le cèdre du Liban, et ceux qui sont engagés avec le Seigneur, il semble que tout va mal. Et alors, vous savez, il y en a qui disent, Dieu n'existe pas, mais si, Dieu existe. Alors, ce serviteur de Dieu, il a dit, mais oui, Seigneur, je comprends pas, il en avait gros, 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 gros. Et il raconte qu'à un moment donné, il a entendu la voix du Seigneur dans son cœur qui lui a dit, tu veux ta récompense maintenant ou tu la veux plus tard? Tu veux ta récompense maintenant ou tu la veux au ciel? Ah, il dit, ça va, Seigneur, je discute plus. Je vous pose la question, vous voulez la récompense maintenant? Vous ne l'aurez pas plus tard. Et vous avez choisi quoi? La récompense pour maintenant ou la récompense pour plus tard? Votre vie maintenant ou une meilleure résurrection? Tout se joue là. Vous voulez la récompense maintenant? Vous l'aurez. Vous ne l'aurez plus après. Et celle qui vient après est 100 fois plus grande. Alors, réfléchissez. Moi, je veux une meilleure résurrection. Toujours, dans Matthieu 5, verset 12, il est écrit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et ceux qui ont été avant vous. » Vous vous rendez compte? Ceux qui ont été avant vous. Réjouissez-vous, mais c'est de la folie de se réjouir de persécution. C'est de la folie de dire « Je me réjouis des souffrances ». Alors, qu'est-ce que cela a à nous dire? Eh bien, il est important encore dans Matthieu 5, verset 43, je vous lis encore ceci. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire simplement ceci, c'est que nous aurons des souffrances par amour pour Jésus. Nous aurons des luttes par amour pour Jésus. Par fidélité pour Jésus, nous aurons de l'opposition, nous aurons des oppressions. Mais ce qui compte ici, c'est tout simplement de savoir que nous serons heureux parce qu'une récompense nous suit dans l'éternité. Une meilleure résurrection. C'est une grâce, dit Pierre, que de souffrir. Vous rendez compte, la souffrance, personne n'aime. Et si vous n'avez pas compris, vous direz, mais le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur n'est pas intervenu, j'ai prié, le Seigneur ne m'a pas délivré de cette fournaise. Mais voilà que la Bible vous dit, mais non, réjouis-toi au contraire, c'est une folie pour la logique humaine, mais c'est la puissance de Dieu. Réjouis-toi de la difficulté que tu as, parce que Dieu est en train de te préparer une meilleure résurrection. Vous savez, tout à l'heure, pendant que nous étions là, dans le culte, à un moment donné, Dieu m'a montré qu'il y avait ici une personne. Vous avez, il y a ici une personne, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je suis sûr qu'elle est là, une personne ici qui est comme oppressée. Vous avez des difficultés de partout déjà. Claudine a parlé tout à l'heure, je ne sais pas s'il s'agit de la même, mais je sais qu'une chose, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui a vraiment un poids incroyable. Ça se répercute, vous avez des oppositions un peu de partout, vous êtes écrasé dans votre famille, un peu dans votre... carrément dans un système de vie dans lequel vous êtes. Et vous êtes comme oppressé. Et je voulais simplement vous dire, et je vous le dis en passant, je vous dis votre solution, c'est tout simplement que vous puissiez comprendre ce matin que vous êtes confronté à un combat spirituel. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous êtes en train de... Vous devez vous ressaisir ce matin. Vous devez vous relever ce matin au nom de Jésus et vous opposer à cette puissance. Et vous verrez que les situations vont s'éclaircir parce que votre combat n'est pas humain, il est spirituel. Vous avez à vous mesurer contre des forces qui veulent vous détruire. Mais c'est vous qui devez le faire. Arrêtez de prier, commandez maintenant. Vous verrez d'ici quelques jours la puissance de Dieu intervenant. Je voulais le dire, c'était une parenthèse. Mais je crois que c'est vraiment une pensée de Dieu. Je suis convaincu que si je vous demandais de lever la main, il y aurait quelqu'un ici qui se rend concerné. Mais je continue encore, toujours, dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 6, versets 1 à 2. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. L'ordon que tu fais, l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, peut-être déjà dans la vie présente, mais ce qui compte, c'est dans l'éternité. » Mes amis, nous faisons quoi? Pour quelles raisons? Quelles sont nos motivations? Quels sont nos objectifs? Quelle est notre vision de ce que nous faisons pour Dieu? Oh, je dis ces choses vraiment pour vous montrer que le combat actuellement est très grand dans ce monde où chacun cherche à se faire une place au soleil. Je voudrais dire que nous, en tant que chrétiens, notre rémunération, elle est là-haut. Nous ne nous affectionnons pas à cette terre, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Notre rétribution est dans le ciel. Notre rétribution est dans l'éternité. Nous travaillons pour l'éternité, nous travaillons pour un règne éternel. Parce que ce pourquoi je travaille pour cette terre, je ne l'aurai plus. J'aurai ma récompense sur la terre, mais je rate mon éternité. Puissions-nous réaliser cet appel de Dieu? Jésus dira encore, en parlant des riches, ils ont déjà leur récompense. Matthieu 6, ils ont déjà leur récompense. Matthieu 10 nous dit que celui qui vous reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Nous recevons des récompenses lorsque nous faisons certaines choses. Vous savez, on dit souvent les œuvres, nous sommes contre les œuvres, en sens, c'est pas par nos œuvres que nous méritons le salut. Tout à fait d'accord. Mais la preuve, le fruit de la repentance, les fruits de la repentance, ce sont des œuvres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'agis pas. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de dire que tu as rencontré Jésus-Christ si dans ta vie on ne voit aucun résultat. Un résultat pratique, des actions pratiques, un engagement pratique, une consécration pratique, un renoncement à soi pratique pour le Seigneur et pour les autres. Tu n'as pas le droit de dire que tu es chrétien si tu ne te donnes pas pour les autres. Tu n'as pas le droit de dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Tu n'as pas le droit, tu te trompes toi-même et tu trompes les autres et tu as un mauvais témoignage face aux anges invisibles et tu as un mauvais témoignage face aux chrétiens et tu as un mauvais témoignage face au monde. Tu n'as pas le droit. Il vaut mieux que tu quittes l'église. Ou alors tu te repens, tu demandes au Seigneur qu'il vienne et qu'il fasse de toi un chrétien authentique. Je dis que le monde trouve des excuses à ne pas être chrétien parce que le témoignage des chrétiens est lamentable, parce qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment rencontré, beaucoup n'ont pas vraiment rencontré Jésus-Christ. L'église est remplie de gens. Ça n'existe pas à Pontoise, mais chez nous à Grenoble ça existe. L'église est remplie de gens, ils croient que Jésus est mort pour eux. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils le croient, ils sont sincères. Ils croient que Jésus a existé, ils croient que Jésus est mort sur la croix. Ils le croient, ils sont sincères. Mais je voudrais vous rappeler ce matin que les démons aussi le croient, le diable aussi le croit. Mais ça ne le change pas. Il y a tellement de gens qui croient que Jésus est mort, mais ils ne sont pas changés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus ressuscité. Et je te pose la question ce matin. As-tu rencontré Jésus ressuscité? Est-ce que cette rencontre du Christ vivant a changé ta vie? Ou est-ce que tu as une bonne vieille religion héritée de tes parents? Tu peux croire. Les églises sont pleines de gens qui croient. Mais ce qui te sauve, c'est ta nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as rencontré le Christ? Est-ce que ton cœur a été changé? Est-ce que maintenant tu as compris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Vous savez, si Dieu fait le triage, il n'en restera pas beaucoup. Mais ce matin, nous sommes là devant Dieu. Nous avons pris la Sainte Cène tout à l'heure. Est-ce que c'est par habitude, parce qu'il sait maintenant l'heure du culte, il faut prendre la Sainte Cène. Alors Seigneur, tu as versé ton sang, tu as versé... Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de te comporter? Est-ce que ça a changé quelque chose dans tes priorités et dans l'acceptation de souffrir, s'il le faut, pour Christ et pour ton prochain? C'est ça la marque du chrétien. Le reste, c'est une religion qui te conduira en enfer, même si c'est une religion charismatique ou pentecôtiste. Je suis dur en disant cela. Mais je vous le dis, il vaut mieux qu'on vous le dise en face, que vous pleuriez toute l'éternité en regrettant de ne jamais pouvoir rattraper ce que vous ne pourrez jamais plus rattraper. Mes amis, puissiez-vous comprendre pourquoi je lutte que de là, dans ces moments quand je vous parle, parce que je sais qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se faire dans l'Église, et Dieu veut désespérément empêcher les chrétiens de faire naufrage. Il veut les saisir. Comprenez-vous ce matin que l'Esprit de Dieu veut vous saisir. Arrêtez les habitudes. Arrêtez un train-train. Donnez votre vie fermement, totalement, au Seigneur et aux frères et aux sœurs. C'est important, c'est une bataille. C'est une bataille face au monde invisible. C'est une bataille du témoignage face au monde invisible. Il y a tellement peu de gens qui ont conscience des anges. Tellement peu de gens qui ont conscience des démons. Et je me rends compte de plus en plus maintenant, que ce soit dans les campagnes d'évangélisation, que ce soit à l'église, les nouveaux qui viennent, il faut chasser des démons. Constamment maintenant, de plus en plus, tout le monde est plongé dans l'occultisme, tout le monde est plongé dans toutes sortes de dépravations et de déviations qui ont permis à des puissances démoniaques d'entrer dans les corps. Mais si vous n'avez pas de puissance, qu'est-ce que vous allez faire? Un beau chant? Mais est-ce que les gens n'ont pas besoin d'entendre la musique? Ils ont besoin d'être délivrés et ils ont besoin d'une église qui est puissante pour recevoir ce que Dieu veut leur donner. Oh mes amis, nous devons, quand nous amenons quelqu'un, quand nous venons en tant que témoin, en tant que chrétien vers les âmes, nous devons leur donner à manger. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et il faut être riche pour cela. Mais de la richesse de Dieu, la richesse du Saint-Esprit, afin également d'avoir la vision d'une meilleure résurrection. Alors je pose cette question, est-ce que vous avez déjà votre récompense? Alors je vous dis, vous êtes la plus malheureuse, le plus malheureux de tous. Parce que si vous avez maintenant votre récompense, vous ne l'aurez plus là-haut. Et c'est une folie de vouloir une récompense pour 20, 30 ou 50 années de vie, alors qu'on rate ce que Dieu a voulu nous donner pour l'éternité. Vous investissez pour qui? Vous investissez pour quoi? Vous investissez comment? Quand même vous consoler un petit peu, sinon vous allez me jeter dehors. Hébreux 6 dit encore, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour nous, pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Alors, je tempère un petit peu maintenant ce que j'ai dit. Dieu vous aime. Dieu n'est pas oublieux. Mais si je parle ainsi, c'est parce que je sais que Dieu voudrait que vous ayez une meilleure résurrection. Une meilleure résurrection. Une meilleure... Et Dieu veut que vous brillez. Vous brillez dans l'éternité comme les étoiles au firmament. Et vous savez que chaque étoile a un éclat différent. Et Dieu voudrait que vous priez du meilleur des éclats. C'est la jalousie de Dieu pour vous. Non pas pour lui, mais pour vous. Parce que Dieu vous aime. Oh, mes amis, dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 38, Jésus donne la clé encore de toute cette vision de l'éternité donnée et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Est-ce que vous réalisez que les récompenses là-haut vous seront données selon la mesure que vous vous êtes servi ici sur la terre? Ne dites pas « Dieu est bon ». Dieu va me donner n'importe quoi. On te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi sur la terre. Je peux le redire, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. En un mot, cela vous reviendra. Ce que vous avez été, ce que vous avez choisi, la façon dont vous avez vécu, vous reviendra au moment de la résurrection. Et je dis que c'est bête, c'est insensé de vouloir effacer cette chose-là en sautant dessus comme un saute-mouton. Parce que la parole de Dieu nous retrouvera inexorablement. Et si ce n'est pas maintenant, c'est devant le tribunal de Christ. Vous savez, Jésus dira encore dans Luc 6, 24, « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » Ça ne veut pas dire que Dieu est contre les riches. Il nous faut des riches dans l'œuvre de Dieu. Mais pas des riches qui vivent pour leur richesse à eux, mais des riches qui savent gérer leur richesse pour le bien de l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu dénonce la mauvaise utilisation de la richesse. Et si ma richesse est pour moi ma consolation, alors je l'ai, mais je l'aurai pas là-haut. Et ça, vous devez comprendre les priorités que la parole de Dieu place devant nous. Vous pouvez écouter des cassettes, vous pouvez lire de la littérature, on vous dira c'est formidable, c'est la bénédiction de Dieu. Moi, je vous dis, de la part du Seigneur, par rapport aux Écritures, que ce que quoi vous avez votre consolation ici-bas, vous ne l'aurez pas après. Parce que ce que j'ai, ce que je suis, c'est pour le salut des âmes. Est-ce que vous réalisez, je l'ai dit tout à l'heure, chaque heure, 3333 personnes vont en enfer. Et si Dieu nous donne la richesse, si Dieu nous donne la santé, si Dieu nous donne tout ce que nous avons, c'est pour que nous gagnions au maximum des âmes pour le ciel. Nous devons engranger le paradis, non pas engranger l'enfer. Oh, mes amis, j'aimerais tellement vous secouer. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de bénédiction, de tout rater pour l'éternité. Peut-être serez-vous sauvés, comme au travers du feu, mais vous savez quelles sont les fondations d'une maison? Imaginez cette maison, uniquement les fondations. On a creusé des rigoles, on a mis du ciment, et ça sort de terre un mètre sous terre. Et on invite tout le monde à venir à l'église de Pontoise, hein, chez le pasteur Gadreau, et on arrive ici, tout le monde ne voit que des débuts de cloison. Pas de toit, pas de mur, pas de cloison, pas de chaise, rien. Les fondations. Qu'est-ce que vous direz? Mais c'est rigolo, cela. Mais est-ce que vous réalisez ce que les anges pensent de certains chrétiens? Ils ont la fondation, ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont été mis sous le pardon du sang de Jésus, alors ils ont le salut, fondation. Mais il n'y a rien qui monte, pas de cloison, pas de mur, pas de lit, pas de champ, pas de toit, rien, rien. Et là-haut, quand ils viendront devant le tribunal de Christ, ils n'auront que des fondations à montrer, ils n'auront rien. Ils n'auront rien à présenter d'autre. Sauvés comme au travers du feu, mais rien de plus. Vous ne trouvez pas. Déjà, même si vous voulez vivre dans le monde en dehors de l'esprit chrétien, vous n'êtes pas tellement heureux, parce que le monde ne nous offre rien de formidable. Et est-ce que vous vous rendez compte, non seulement rater la vie présente, mais encore rater l'éternité, mais c'est de la folie. Alors, il faut foncer pour Jésus-Christ. C'est la clé. Foncez. N'ayez pas peur de trop donner ou de vous trop donner. Vous vous donnez totalement comme ça, vous êtes tranquille. C'est ça la marche chrétienne. Sinon, vous ne serez jamais heureux, ni dans ce temps présent, ni dans l'éternité. Oh, vous savez, si nous cherchons à tout recevoir sur la terre, nous risquons de rater une meilleure résurrection. Et puis Pierre dira encore en Pierre 4, 12, « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. » Il y a certainement des chrétiens parmi nous qui actuellement ont des souffrances. Vous avez des souffrances dans votre corps. Ça peut être des souffrances dans votre foyer, ça peut être des souffrances économiques, ça peut être des souffrances avec vos enfants, ça peut être des souffrances à cause de votre engagement chrétien, ça peut être des souffrances de tout genre. Vous les savez, vous qui êtes concernés. Mais la Bible vous dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que ces choses enfantent pour vous un poids éternel de gloire. Vous verrez votre voisin être heureux, chrétien tranquille, pépère, dirons-nous entre guillemets. Il prie, il est exaucé, il a sa récompense. Vous, vous êtes sous un joug labeur, vous êtes difficile, vous avez tous les pépins du monde, mais vous tenez ferme envers malgré contre tout. Vous tenez et votre récompense sera supérieure. Amen. Ayez conscience de ces choses-là. Arrêtez d'avoir des yeux matérialistes, ayez les yeux spirituels. Considérez l'invisible, acceptez de renoncer à des richesses immédiates pour être enrôlé de gloire et avoir un poids de gloire dans l'éternité tout entière. Savez-vous qu'il y a une différence entre la souffrance et la tentation? La Bible nous dit que la tentation n'est jamais au-delà de nos forces. Mais il y a des souffrances qui peuvent être au-delà de nos forces. Il y en a, vous savez, quand vous êtes au fond du trou, ils disent « Allez, alléluia, allez, alléluia », les conseilleurs, ce n'est pas les payeurs, vous savez. Il y a des souffrances. L'apôtre Paul lui-même a dit qu'il a été accablé au-delà de ses forces, afin de ne placer sa confiance qu'en Dieu seul. Il y a des moments, c'est toutes les tuiles du toit qui vous tombent sur le crâne, et vous n'avez plus la force de se lever ces tuiles. Vous êtes à terre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dire, allez-le, je suis fort, je suis fort, je suis fort, mais parfois vous n'avez même plus la force de le dire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Placez votre confiance en Dieu qui est au-delà de ces souffrances qui vous attaquent. Il y a des moments, on est dépassé. Il y a des moments, on ne peut plus. On ne peut plus. Alors, le Seigneur le sait, lui qui ressuscite les morts. Et accablé au-delà de tout, je m'abandonne. Je suis là à terre, mais je sais que si je tombe, le Seigneur me relèvera. Ça, c'est la souffrance. Elle nous dépasse parfois. Le poids est parfois trop dur. La tentation, c'est différent. La tentation, j'ai le devoir d'y résister. Parce que la Bible me dit qu'aucune tentation ne met sur une nuit qui ne soit pas humaine. Et si tu craques dans la tentation, c'est que tu n'as pas fait quelque chose que tu devais faire au moment voulu. Il y a des jeunes parfois qui me disent, un jour un jeune est venu, tu sais Pierre, hein? L'autre jour j'étais avec une jeune fille, on était dans une chambre, là je prie avec elle, puis à un moment donné je l'ai embrassée, etc. Je dis, j'ai pas pu résister à la tentation, je dis, si, tu n'as qu'à ne pas y aller. Mais oui, c'est comme ça, on se prend, on se brûle, et après on dit, mais je pouvais pas, mais si, seulement il faut prendre ses précautions. Vous n'êtes pas comme ça à Pontoise, c'est que chez nous à Grenoble. Je fuis, il y a des moments c'est trop fort, alors je fuis, je peux fuir. Je peux fuir si je reste, alors je brûle. Je peux pas, mais si, tu as peu, la Bible te dit qu'aucune tentation n'est sur moi. Il faut être honnête. Il ne faut pas dire je ne pouvais pas. Il y avait un moment là où tu as raté quelque chose quelque part. C'est pour ça que maintenant tu es vaincu. Mais la souffrance parfois vient, elle est au-delà de notre capacité. Elle nous écrase parfois. Mais lorsque nous sommes à terre, il y en a un qui veille sur nous. Parce qu'il est plus grand que tout. C'est mon Père, en qui j'ai remis toutes choses. Je vais essayer de m'arrêter le plus rapidement possible. Il vous a été fait, dit Paul dans Philippiens 1, 29, il vous a été fait la grâce de souffrir avec lui. Il vous a été fait la grâce de souffrir avec lui. Et un jour, un missionnaire a dit, il n'est pas fou celui qui rend à Dieu ou qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder ou conserver et qui gagne et qui reçoit ce qu'il ne peut plus jamais perdre. Les épreuves de notre foi nous apportent un meilleur résultat. Elles ont pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, dit 1 Pierre 1, 7. Et c'est lorsque nous avons passé par l'épreuve que nous savons alors mieux apprécier la résurrection et la meilleure des résurrections. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, 19, « Vous êtes notre couronne de gloire et notre joie. Les âmes gagnées à Christ par notre moyen sont notre couronne de gloire et les joyaux de la couronne que nous porterons dans l'éternité. » Alors je vous le dis de tout mon cœur, gagnez des âmes, gagnez des âmes, gagnez des âmes, que ce soit par vos paroles, que ce soit par votre argent, que ce soit par votre temps, que ce soit par vos efforts, gagnez des âmes. Elles participeront à votre meilleure résurrection et seront la couronne de votre meilleure résurrection. Vous devez vivre pour gagner des âmes, parce que ces âmes vous suivent dans l'éternité. Gagnez des âmes, gagnez des âmes, gagnez des âmes. Nous verrons dans les jours qui viennent, vous pouvez gagner des âmes par votre argent. Vous pouvez gagner votre âme par votre effort, par vos prières, par vos intercessions, par le don de votre vie, par votre témoignage, par votre fidélité envers ce que Dieu vous montre. Mais gagnez des âmes, gagnez des âmes, gagnez des âmes, gagnez des âmes pour votre Église. Cette Église a besoin de grandir parce que Dieu a tellement de gens dans la région qui lui ont encore sauvé. Alors gagnez, 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 et ça vous suivra dans l'éternité. Et enfin, je rappelle ce que j'ai dit. Dans Daniel 12, 3, ils brilleront comme la splendeur du ciel, de même que les étoiles brillent avec différents éclats, de même la résurrection nous fera briller avec des éclats différents. Sachez que notre récompense, elle, est éternelle. Alors, je m'arrête parce que j'étais assez long et bavard. Puis-je me permettre encore une minute de vous lire un texte qui s'appelle, qui a pour titre « D'autres peuvent, tu ne peux pas ». Et vous savez, j'ai pas... Sincèrement, je ne cherche pas à plaire, là. Je cherche simplement à parler à ceux qui ont vraiment envie de servir Dieu. Et ceux qui n'ont pas envie, je vous dis honnêtement, ce matin, changez vos cœurs. Parce qu'il y va de votre éternité. Il y va de votre résurrection. Et vous pourrez gargariser, vous pourrez chercher des prédicateurs qui vous font plaisir. Allez-y. Je suis en train de faire de la désévangélisation. Mais je ne sais pas ce que je cherche. Je cherche des hommes et des femmes qui ont compris l'enseignement du discipolat et qui veulent foncer parce qu'ils ont compris la valeur d'une meilleure résurrection. Alors je dis, d'autres peuvent, tu ne peux pas. Si Dieu t'appelle à ressembler vraiment à Jésus-Christ, tu seras conduit dans des chemins de renoncement et d'humiliation que tu n'aurais certes pas choisi. Le Seigneur exigera de toi une telle obéissance que tu devras marcher absolument seul. Tu ne pourras te comparer à nul autre chrétien. Tu n'auras plus la liberté de faire certaines choses que d'autres pourront facilement se permettre. Les chrétiens qui t'entourent, tous gens pieux et utiles, peuvent se mettre en avant. Ils tracent des lignes de conduite, ils élaborent des plans et les mettent à exécution. Mais toi, tu ne peux pas les imiter. Au moindre essai de faire comme eux, tu seras arrêté par un échec humiliant. Le Seigneur te reprendra avec sévérité et tu te repentiras amèrement. Les personnes de ton entourage peuvent se vanter de leur travail, de leur succès, de leurs écrits, mais le Saint-Esprit ne te permettra jamais rien de pareil. Si toutefois tu t'avisais de le faire, il en résulterait pour toi une humiliation si profonde que tu en arriverais bien vite à te mépriser, toi et tes bonnes œuvres. Tes voisins, chrétiens aussi bien que toi, peuvent gagner de l'argent sans peine ou même avoir le bonheur de faire un héritage. Dieu semble vouloir te garder dans une situation précaire. Mais il te destine des biens meilleurs que l'or de cette terre. Il veut te faire dépendre uniquement de lui, en se réservant le privilège de pourvoir lui-même à des trésors invisibles renouvelés chaque matin. Le Seigneur peut permettre à d'autres d'être honorés et mis en avant, mais il te cachera dans l'obscurité pour te faire produire à sa gloire des fruits précieux et odoriférants qui ne peuvent mûrir que dans l'ombre. Ton voisin deviendra grand, mais tu seras gardé dans la petitesse. D'autres peuvent travailler pour lui et recevoir la récompense de leur activité, mais toi, tu seras courbé sous un pénible labeur. Et nul ne saura tout ce que tu fais. Puis, pour rendre ton œuvre plus précieuse encore, il peut permettre que ton travail soit attribué à d'autres qu'à toi. Mais quand Jésus reviendra, ta récompense sera 10 fois plus grande. Le Saint-Esprit veillera sur toi avec un soin jaloux. Il te réprimandera pour de petites choses, perte de temps, paroles inconsidérées, qui pour d'autres chrétiens sont des détails insignifiants. Souviens-toi que Dieu est ton souverain maître. Il a donc le droit d'agir comme il lui plaît, avec ce qui lui appartient. En 1000 occasions, ces dispensations à ton égard t'embarrasseront et te déconcerteront, mais si tu te livres à lui, pour le servir sans condition, il t'enveloppera d'un amour jaloux et déversera sur toi des bénédictions qui sont la part de ceux-là seuls qui savent se cacher dans la sainte retraite du Tout-Puissant. Admets donc, une fois pour toutes, que tu as affaire directement avec le Saint-Esprit de Dieu. Il réclame le privilège de brider ta langue, de lier tes mains, de fermer tes yeux, même s'il n'agit pas ainsi avec ses autres serviteurs. Quand, dans le secret de ton cœur, tu seras ainsi possédé par le Dieu vivant, quand tu pourras te réjouir sans arrière-pensée de cette surveillance étroite, personnelle et jalouse, quand tu seras heureux que cette tutelle divine contrôle ton cœur et les replis les plus cachés de ta nature, alors tu seras entré dans le vestibule du ciel. Alors, tu es en route pour une meilleure résurrection.